RCF.
Julia Kristeva, je suis vraiment très heureux de vous rencontrer chez vous, ici à Paris, à l'occasion de la publication de vos mémoires aux éditions Fayard, un long dialogue que vous avez mené avec l'écrivain et psychologue Samuel Doc. Vous qui êtes internationalement connu et reconnu, et notamment aux États-Unis, comme linguiste, psychanalyste, romancière, féministe, vous avez accepté pour la première fois de dévoiler des facettes de votre vie, en Bulgarie dans votre enfance, à Paris dans l'ébullition des années 70 avec votre mari Philippe Solers, mais aussi sur votre engagement pour la reconnaissance de la singularité des personnes porteuses de handicap. Et puis sans oublier bien sûr votre intervention inoubliable à Assise, à l'invitation du pape Benoît XVI, lors du rassemblement interreligieux pour la paix en 2011. Vous étiez la seule femme invitée pour représenter les humanistes, athées ou agnostiques. Alors Julia Kristeva, je ne vous cache pas que j'ai été très intrigué par le titre de vos mémoires « Je me voyage ». Un titre que j'ai découvert en vous lisant, qui est aussi une devise pour vous. Alors est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?« Je me voyage ».
C'est une sorte de distorsion à la langue française, presque un néologisme, parce que ça ne se dit pas. Je m'entends, j'y vais, je me déshabille, je m'habille, mais je me voyage, c'est moi qui l'ai inventé. Mmh. Et c'est une de mes héroïnes, parce que j'écris des romans depuis plusieurs années déjà, qui s'appelle Stéphanie Delacour, qui court beaucoup en tant que journaliste et qui le dit à un moment donné à un de ses amis qui est inspecteur de police et qui habite à New York pour les circonstances, parce qu'il y a des enquêtes compliquées dans ses romans. Il lui demande où elle est et il lui dit « je me voyage ». Donc ça m'a échappé comme ça dans l'écriture romanesque qui vous met dans des états oniriques un peu. Et j'ai trouvé que ce qui m'a échappé me résumait. Et je l'ai adopté pour
mais
donner le titre.
Comment le comprendre?
Alors, ce qu'on comprend par là, c'est que cette Stéphanie Delacour, donc moi-même, traverse sans arrêt des frontières, qui sont des frontières à l'intérieur d'elle-même et des frontières externes. Et je pense que ce voyage intérieur est quelque chose qui se perd bizarrement dans ce monde globalisé où tout le monde croit voyager. Moi, je dis, les gens ne voyagent pas vraiment dans la globalisation. Il y a une transhumance humaine globalisée. Ils se déplacent, on les délocalise, on les vire, ils perdent leur place. Certains croient qu'ils sont en marche. Mais se voyager au sens de se déplacer, de s'interroger, de rencontrer autrui et d'inviter cet autrui à faire le déplacement vers l'autre, toutes ces dimensions qu'on appelle l'expérience intérieure, moi je l'appelle ainsi, et je sais que dans le christianisme c'est une notion et une pratique importante, eh bien j'ai peur que ça se perde.
Julia Kristeva, voyager, vous l'avez beaucoup fait dans votre vie, on va le voir au cours de cet entretien, voyager à travers les différentes sciences que vous avez étudiées, que vous avez enseignées, à travers les différents pays où vous avez vécu et
à travers les langues aussi,
et
oui.
À travers les langues. Alors j'aimerais qu'on parle d'abord de la Bulgarie,
oui.
Votre pays natal. Vous êtes né en 1941 en Bulgarie. Vous y avez quand même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, mm-hmm. avant votre arrivée en France en 1965. Vous dites dans ce livre de vos mémoires que votre anniversaire est associé au conflit mondial. Comment s'exprime chez vous le fait d'être une enfant de la guerre ?
Je dis ceci dans le livre, en effet, et je reviens surtout sur ce moment de mon anniversaire, qui est le 24 juin, qui se trouve être 2 jours après la déclaration de la guerre par Hitler à Staline. Donc on chantait en russe une chanson qui célébrait ce moment dramatique, et mon anniversaire était résorbé dans cet état de guerre auquel on nous invitait à penser, où toute la vie du pays, des écoles, était orientée vers cet anniversaire-là. Donc j'ai toujours eu le sentiment de devoir faire face à une guerre et de faire partie d'un état de guerre. Alors ceci dit, j'avais la chance d'avoir une famille très unie et pour laquelle la culture avait pris la place de la religion, qui m'a beaucoup abritée, donc je me sens pas du tout maltraitée ou lésée. Mais il y avait beaucoup de moments où on m'a renvoyé justement le fait que j'étais différente en raison de mes parents en particulier.
Alors justement, vos parents, Julia Kristeva, j'aimerais que l'on en parle, parce qu'ils ont bien sûr beaucoup compté dans votre histoire. J'aimerais qu'on parle d'abord de votre maman,
oui,
rapidement, Christine. Elle, c'était une scientifique.
Alors, elle aurait pu être une scientifique parce qu'elle a fait des études de biologie. Et j'ai trouvé une photo d'elle à l'université de Sofia avant ma naissance, dans son labo avec des éprouvettes qui se trouvent dans le livre. Parce qu'il y a un cahier de photos dans le livre que je me permets de vous signaler, qui dit beaucoup de choses. Je ne reviens pas sur toutes les photos dans le texte, mais je le fais maintenant. Donc, elle a abandonné son métier. Parce que après la guerre, il fallait s'occuper de ses enfants. Il n'y avait pas de possibilité de donner ses enfants à quelqu'un d'autre.
Alors, est-ce qu'elle a sacrifié son désir de devenir une scientifique pour élever ses enfants, c'est-à-dire vous et votre sœur? Et ça, je l'ai trouvé intéressant parce que vous êtes une féministe. On va en parler. Est-ce que votre mère était, je dirais, l'image de la femme qui a sacrifié sa liberté pour s'occuper de ses enfants?
Eh bien, justement, non. Et je relève cette question dans le livre parce que, d'un premier abord, on pourrait penser ça. Une femme qui a fait des études et qui ne fait pas son métier, qui a arrêté mais ses études, même au moment, au milieu des choses, pour se consacrer à ses enfants. Donc, c'est une sacrifiée. Elle ne le vivait pas du tout comme ça. Et elle nous encourageait, nous, à continuer des études. Elle nous aidait dans nos études. Moi, en particulier en maths, parce qu'il était fort en maths, et elle vivait à travers nous. Mais j'ai eu le sentiment avec elle que la maternité, contrairement à ce que disent les féministes, n'est pas un sacrifice, que ça peut être non seulement quelque chose de naturel, mais très épanouissant pour une femme, et qu'on peut être intelligente sans avoir une profession. Si on transmet ce goût de la science, des études, de la vie intellectuelle, dans la vie de famille.
Il y a dans la famille Kristeva, votre père, Stoyan, alors lui, très croyant, un orthodoxe très croyant, il a essayé de vous transmettre dans votre jeunesse, dans votre enfance, sa foi orthodoxe.
Alors, il était très croyant, il avait fait le séminaire, je raconte un peu son histoire dans le livre, et puis après théologie avant de faire médecine, théologie orthodoxe, et il essayait sans être doctrinaire, il essayait en ceci qu'il nous amenait dans les églises jusqu'à l'âge de 7-8 ans pour communier ou pour assister aux fêtes, et même plus tard, il nous prenait des chambres dans des monastères à la montagne pour vivre une vie un peu abritée, mais aussi pour lui naturelle, parce qu'il était très grec aussi, il aimait beaucoup le sport, la nature, il fallait que ses filles soient là-dedans. Mais à travers maman et grâce à l'école, moi j'étais devenue évidemment très, très athée. Et on lui disait que, surtout moi, que nous venons des singes et qu'il y a une évolution darwinienne.
C'est votre maman qui était très darwinienne.
Voilà.
Et lui, il
n'était pas content du tout. Donc, il se fâchait tout rouge. On le traitait de dinosaure, de fossile.
Mais ça, Julia Kristeva, c'était votre pensée de petite fille qui s'est opposée très vite au père, ou c'était l'influence du marxisme qui était en Bulgarie à cette époque-là?
Je crois que ma pensée, dans ma compréhension des choses, ma pensée, elle n'était pas génétiquement formée, donc elle se construisait dans le contexte culturel, et elle était influencée, bien sûr, par l'enseignement qu'on donnait à l'école, et par ce que maman sourdement a influencé. Je la vois quand on nous parlait de Darwin, elle disait oui, c'est très intéressant, elle développait. Et papa disait non, mais moi, j'allais du côté de maman. C'était aussi le désir de s'autonomiser du chef de famille, parce que c'était une famille classique et c'est quand même lui qui était le chef, quelque littéraire et théologien qu'il soit, et maman, quelque scientifique qu'elle soit, le suivait. Donc je portais la révolte, et c'était une manière de porter la révolte que d'être athée contre le père religieux.
Alors on parlera plus tard du fait religieux, parce que vous avez vécu notamment un événement assez exceptionnel à Assise, lors du rassemblement interreligieux d'Assise avec le pape Benoît XVI, mais on en parlera plus tard et on reparlera de la religion. Julia Kristeva, j'aimerais savoir votre lien avec la langue française, parce que là, quand on vous entend, vous parlez parfaitement le français, vous pensez français aujourd'hui, mais ce n'était pas votre langue maternelle. Vous l'avez apprise très jeune, cette langue française. Pourquoi est-ce que votre papa, parce que je crois que c'est lui, a voulu que vous appreniez le français dès l'âge de 4-5 ans?
Alors, mon père avait une devise, il faut que mes filles sortent de l'intestin de l'enfer. Cerevo a devo. Et il pensait que c'était, il me disait que c'était une phrase des évangiles que j'ai jamais trouvée, mais on trouve ça chez Dante, ce qui veut dire, c'est lié à Jésus, à Judas, enfin, je sais pas, une histoire assez dramatique de, sur le genre humain qui vivrait avec ses péchés, ses violences, dans l'enfer et dans l'intestin de l'enfer, c'est ce qu'il y a de pire aux hommes. Donc, il fallait sortir de l'intestin de l'enfer. Et c'était possible, avec les filles, par deux moyens, avoir un métier et connaître les langues étrangères. Et c'était son idéologie, on va dire, sa philosophie. Et pour ça, il m'avait inscrite à l'école maternelle des dominicaines. On m'a dit maintenant que c'était peut-être pas des dominicaines, mais des oblates, assomptionnisme, je sais pas trop. Et qui nous apprenait le français, en nous apprenant à faire la révérence, dans les fables de La Fontaine, mais aussi de Victor Hugo, un peu de Colette, etc. Et il n'y avait pas vraiment de religion, je me rappelle pas de religion, mais c'était surtout la langue. Et très vite, dans les années, début des années 50, elles ont été convaincues d'espionnage, elles ont été chassées de Bulgarie et leur œuvre a été reprise par l'Alliance française. Donc j'ai continué, trois fois par semaine, les cours d'Alliance française, puis à l'école, mais le français est devenu vraiment ma langue à l'université parce que j'ai fait philologie française et après en venant en France grâce à la psychanalyse je pense où j'ai parlé le langage de l'enfant parce que à l'université c'était une langue plutôt abstraite, plutôt savante et en apprenant le français avec David parce que ce français infantile je l'avais pas, mais vous dites je parle parfaitement, je m'entends quand j'entends les enregistrements, j'entends mon accent et peut-être je le cultive en faisant ce néologisme, je me voyage.
Visage, l'expression de l'être.
Julia Kristeva, nous poursuivons sur RCF cette émission Visage. J'aimerais que l'on parle de votre arrivée en France. Noël 1965, grâce à la bourse du général de Gaulle, vous pouvez venir, vous, jeune Bulgare, faire des études en France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est la légende dorée de Julia Kristeva que vous êtes arrivée en France avec 5 dollars en poche?
Ah mais c'est tout à fait vrai, ça ne m'avait rien de doré, c'est plutôt le contraire.
Vous aviez une petite valise et 5 dollars en poche.
Oui, mais il y avait quelqu'un qu'on connaissait, que mes parents et moi-même vaguement je connaissais, qui devait m'accueillir à l'aéroport. Et que la bourse commençait fin janvier. Parce que, je résume, et c'est plus longuement raconté dans le livre, le général de Gaulle donnait ses bourses aux jeunes de l'Est qui parlaient le français, et le gouvernement communiste le donnait aux vieux qui parlaient pas le français, et en conséquence, il n'y avait pas grand monde qui partait. Mais à la veille de Noël, mon directeur de thèse a voulu profiter de l'absence du chef qui était allé à Moscou. Je me suis présentée à l'ambassade, j'ai eu donc la bourse.
Vous avez eu de la chance parce que votre père ne faisait pas partie du parti. Hein.
Voilà, ouais. Et donc on avait peur que je ne sois pas acceptée, même si l'ambassade me permet, que la stratégie de l'Institut de littérature où j'étais ne m'aurait pas permis de faire ça. Et donc on s'est précipité de partir en sachant que quelqu'un m'accueille et que j'attends ma bourse à la fin du mois. Et puis ces 5 dollars, c'était tout ce qu'il avait trouvé, mais on comptait sur la personne qui ne s'est jamais présentée.
Alors très rapidement, Julia Kristeva, ce qui est incroyable dans votre histoire, c'est que vous, jeune Bulgare de 24 ans qui arrive à Paris, vous rencontrez le groupe tel quel, un groupe d'intellectuels parisiens de Saint-Germain-des-Prés, donc on est dans les années 60, avec Philippe Solers, qui va devenir votre mari, Roland Barthes, Michel Foucault, bref, toute une équipe d'intellectuels. Comment vous avez réussi, je dirais, à rentrer dans ce mouvement d'intellectuels, à vous faire accepter, vous, la jeune Bulgare qui arrivait?
Alors, est-ce qu'on est toujours et totalement accepté? Je ne sais pas, mais j'ai vu d'abord la photo de Solers dans une revue, je crois, de la jeunesse communiste, Clarté. Je ne le connaissais pas du tout. C'est Genette, Gérard Genette, qui faisait partie de ces intellectuels structuralistes qui s'intéressaient au nouveau roman, ami de Roland Barthes, et qui m'a indiqué qu'il n'y avait pas que le nouveau roman, il y a l'après-nouveau roman, et Solers, avec tel quel, était un peu la vedette de ce milieu. La revue Clarté, où j'ai lu un entretien, montrait aussi une très belle photo. Donc j'ai écrit à ce monsieur que je trouvais très intéressant dans ses dires et très séduisant sur sa photo. Il m'a donné un rendez-vous, on a parlé et petit à petit la relation s'est établie. Mais je ne suis devenue membre d'être tel quel que très... de telle qu'elle est revue très, très tardivement. Et c'est vrai qu'il y avait, à ce moment-là, une image que peut-être de jeunes de l'immigration aujourd'hui ne trouvent pas en France. D'abord, on n'était pas très nombreux. Ensuite, la France était un peu frigorifiée, frileuse sur ses gardes parce que sortant de la guerre d'Algérie. Et je le constatais quand on m'amenait à l'église à la veille de Noël, etc. Mais qui avait aussi, à Saint-Germain-des-Prés, comme vous dites, une atmosphère intellectuelle, aussi bien dans les milieux littéraires que dans l'université, qui s'intéressait beaucoup aux jeunes de l'Est. Encore une fois, c'est une minorité, y compris le Saint-Germain-des-Prés, pas dans sa totalité, mais dans une espèce de microcosme, dans le microcosme qui était ouvert.
Mais Julia Kristeva, le politique tenait une grande place dans cette période des années 68, que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent plus, ont vaguement entendu parler. Moi, j'aimerais savoir, avec votre recul, avec votre maturité aujourd'hui, comment vous relisez rapidement cette période des bouleversements de 68 que vous avez connu et dans lesquels vous avez participé. Comment vous
Moi, je sais que maintenant, il n'est pas à la mode de valoriser 68. Mmh. Et même, en fait, maintenant, le centenaire de Mitterrand, j'ai eu l'occasion de le croiser. Quand on lui parlait de mai 68, même lui, le socialiste, était très énervé, sinon contre. En tout cas, dans les petits échanges que nous avons eus. Donc, pour dire que mai 68 n'a pas bonne presse.
Et pour vous,
moi, je pense que c'est un moment absolument important pour la vie culturelle et qui a changé le retard de la France. Après, il y a eu des excès, notamment contre l'autorité, contre le gouvernement et toutes sortes d'ordres, une espèce d'anarchisme extrémiste que je ne partageais pas. Mais le fait de s'ouvrir à la jeunesse, de mettre ce qu'on appelait à l'époque l'imagination au pouvoir, de parler de psychanalyse, d'ouvrir au féminisme, tout ça, de s'intéresser à ce qui se passe au-delà de frontières, de se rendre compte du fait que la France n'est plus une grande puissance, mais il y a d'autres puissances émergentes, on avait l'impression d'être à l'avant-garde d'un mouvement qui est toujours en latence et que la France, porteuse de la Révolution française, se doit de mener dans le monde.
Est-ce qu'il n'y avait pas une forme d'aveuglement? Alors c'est facile de le dire avec un certain recul, mais je repense à cette phrase fameuse, il fallait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Vous ne pensez pas qu'il y a eu, à cette époque-là, une certaine forme d'aveuglement ?
Moi, je n'emploierai pas ce mot. Je crois qu'il y a des passions qui sont souvent extrêmes, mais j'aime beaucoup la pensée d'Aron, et je m'y réfère en particulier, notamment dans son appréciation de l'œuvre de Hannah Arendt, puisque j'ai travaillé sur ce sujet étroit. Mais l'importance de Sartre, son écriture en particulier, dans les mots ou dans la nausée, le Sartre, l'écrivain, qu'on oublie maintenant, est une expérience absolument unique au monde. Il a reçu le prix Nobel pour cela, qu'il a refusé dans son extrémisme. Le couple Sartre-Beauvoir, qui n'est pas un modèle pour moi, mais qui montre comment les deux sexes doivent s'ajuster de manière créative et que chacun doit inventer sa liberté, ce sont des messages qui restent toujours d'actualité pour moi.
Ce qui me fascine chez vous, Julia Kristeva, c'est votre capacité et je l'ai vu en lisant ce livre ou en regardant des documentaires, à toujours saisir ce qui est nourrissant, intéressant, unique, je dirais partout, chez tout le monde.
Écoutez, on me le fait signaler, oui, mes analysants le ressentent. André Green, qui était mon maître superviseur en psychanalyse, me disait « vous arrivez à vitaliser les déprimés ». Alors, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être de cette histoire qu'on est en train de relater. Quand j'en parle à la maison, Philippe et David se moquent de moi parce que Philippe dit « mais ton père dirait que c'est la Providence ». Je sais pas, moi je me définis peut-être pas comme optimiste, mais comme une pessimiste énergique.
Julia Kristeva, j'aimerais qu'on parle du féminisme, parce
oui.
que quand on vous présente comme une féministe, et en même temps, pareil, en lisant ce livre de vos mémoires, je vois que vous êtes encore une fois une féministe un peu particulière. Vous avez résisté à certains courants féministes, on va dire un peu durs, ceux qui veulent opposer la femme à l'homme, ou une victoire de la féminité qui serait gagnée contre l'oppression sectaire des hommes. Mmh. Je cite certains féministes. Oui. Vous rentrez pas alors dans cette pensée-là. Comment vous concevez le féminisme ?
Ce sera le projet de tout un colloque, cher monsieur. Mais pour raccourcir les choses, je pense que... En tout cas, dans mon histoire personnelle, le féminisme m'a été transmis par le livre de Simone de Beauvoir que j'ai eu la chance de parcourir un tout petit peu déjà en Bulgarie. Et quand je suis arrivée en France autour de 68, il y avait une autre version de ce féminisme qui s'appelait psychanalyse et politique et qui n'était pas en accord avec Simone de Beauvoir, mais qui voulait moins l'égalité que la différence entre les hommes et les femmes, tout en étant, ce courant-là, très opposé aux hommes. Il fallait trouver les spécificités de la jouissance féminine, c'était très influencé par la psychanalyse, et montrer l'oppression masculine. Donc il y avait toujours cette guerre.
Une dénonciation de l'oppression
masculine. Voilà, peut-être même dite de manière plus violente que Beauvoir. Moi, j'ai jamais été dans cette direction, et j'étais à la fois reconnue comme une femme émancipée, une femme qui travaille de manière autonome, qui essaye de cultiver sa singularité, et donc quelque part dans un féminisme au sens large, mais pas appartenant à ces courants-là. Et quand on a fêté le 100e anniversaire de la naissance de Beauvoir, les combats entre les féministes groupuscules étaient tels qu'on m'a dit « mais toi, tu n'es pas dans ces combats, c'est toi qui organisais pour la célébration, pour donner une capacité de vivre ensemble le féminisme. »
Mais qu'est-ce qui caractérise...
C'est pour vous montrer ma singularité.
Alors justement, cette singularité, comment est-ce que vous pourriez nous permettre de la comprendre ? Parce que justement, ce mot de singularité, vous l'utilisez souvent. Il est très important dans votre enseignement, mais aussi dans votre vie.
On va en parler peut-être quand on parlera de la religion sur le thème de la singularité. Mais pour en revenir au féminin, mes étudiantes, mes amies américaines et autres, parce que je suis une vedette aux États-Unis et à l'étranger, grâce à la traduction.
Et beaucoup plus qu'en France, ça aussi, mais
absolument,
c'est un autre sujet.
Voilà. Ouais. M'ont demandé d'écrire enfin ma conception sur le féminisme et le droit des femmes, etc. Et j'ai dit, mais je ne pense pas qu'il y a le féminisme et qu'il y a les droits des femmes au général. Je pense qu'il y a des contributions singulières à la liberté humaine par des femmes et il faut les prendre ces contributions une à une. Et donc, j'ai proposé de parler non pas des femmes, mais du génie féminin.
Et de trois femmes en particulier.
Et de trois femmes en particulier. particulier parce que déjà le génie féminin s'adresse à l'intimité et aux rêves de chaque femme et invite chaque femme à trouver son apport à l'autre, à ses enfants, à la culture si on peut. Donc c'est cette provocation me conduisait à interroger la culture et le travail spécifique de chaque femme. Et j'en ai pris trois qui étaient plus proches de mes propres capacités.
On peut les citer, donc c'est Hannah Arendt.
Voilà, qui fait un peu le canevas de cette trilogie qui s'appelle Le génie féminin, parce que Hannah Arendt est une philosophe d'origine juive allemande et qui a parlé beaucoup de totalitarisme. Elle est même une des inventeurs de cette notion, insurgée contre Hitler et Staline. Ça, c'est pour mettre le curseur sur la politique de ce siècle où il y a justement le féminisme. L'autre, c'est Melanie Klein qui a inventé la psychanalyse des enfants avec d'autres, mais de manière plus ferme. Et il me fallait une Française et qui soit pas déprimée et qui soit pas une féministe échevelée, mais qui se bat pour la liberté. Elle disait même que les féministes, ça lui fait penser au harem et au fouet. Elle voulait pas du tout de ça.
Mais et vous avez pris Colette.
Et j'ai pris Colette.
Mais ce que vous voulez dire par là, c'est que finalement, chaque femme est unique, qu'on ne peut pas généraliser, qu'on ne peut pas parler du féminin en général?
Je crois que chaque personne est unique. Mais je lui dis à ce moment-là, à propos des femmes, c'était 98 jusqu'à 2003, je crois que c'est la période de la publication de ce livre, parce que je pense que la poussée des femmes ces dernières années, ces derniers siècles, nous a fait comprendre combien le mouvement émancipateur collectif va dans le mur. Tous les bourgeois, révolution française, terreur. Tous les prolétaires, révolution communiste, terreur. Tous les musulmans, toutes les ethnies, ça veut dire rejet du colonialisme et guerre religieuse de communautés enflammées et totalitaires. Mais la liberté, et c'est ça que la tradition grecque, juive et chrétienne de l'Europe nous a appris, c'est que la liberté se conjugue au singulier. Et les femmes, évidemment, il y a un côté collectif. On va être pour l'avortement pour toutes, la parité pour toutes, le salaire égal pour toutes, etc. Mais ce qu'elles nous ont fait comprendre, c'est que ces collectivités, en fait, quand elles ne veulent pas être homogénéisées à une banalité, se composent de génies singuliers. Que ce soit Madame Thatcher ou Ségolène Royal en politique, ou Simone de Beauvoir, ou telle scientifique. Ces femmes, donc on dit voilà, les femmes, c'est des histoires particulières et elles ont réussi à être prises au singulier aussi.
Mais Julia Kristeva, ce que vous venez de dire pour les femmes est valable pour les hommes. Chaque homme est singulier aussi.
Oui, mais est-ce que dans l'idéologie reçue, on a dit le mouvement bourgeois, on va pas le considérer maintenant comme une lutte des classes, on va dire que on élit monsieur Hollande parce qu'il est monsieur Hollande et monsieur Sarkozy parce qu'il est monsieur Sarkozy. Mmh. On les élit parce qu'ils sont dans le concept politique le représentant d'une classe sociale ou d'un parti ou d'une communauté. Alors que même dans l'accès des femmes à la parité politique, la réaction des femmes, le fait qu'elles parlaient de leur histoire, qu'elles racontaient leurs épreuves, qu'elles mettaient à nu leur sexualité, leur féminité, leur rapport individuel, et ça a permis de singulariser, y compris la vie politique. Parfois, pour le pire, en allant vers le populisme et le côté comme ça exhibitionniste, mais aussi pour le meilleur, je pense, en ouvrant la voie à l'expérience intérieure dans laquelle j'essaye d'enfoncer quelques interrogations.
Visage, RCF.
Julia Kristeva, vous êtes démarquée aussi quelque part des féministes en choisissant de mettre un enfant au monde. Certaines féministes défendaient l'idée de ne pas mettre d'enfants.
C'était une période avant nous. Maintenant, la maternité est devenue aussi un slogan féministe.
Et du coup, vous avez mis au monde David.
Oui.
Et j'aimerais, si vous le voulez bien, que nous parlions un instant de David, de ce qu'il vous a apporté dans votre vie, parce qu'il compte énormément dans votre existence. David a une maladie neurologique orpheline. Comment est-ce que vous avez accueilli vous, personnellement, l'annonce de cette maladie ?
J'ai accueilli ça, évidemment, avec beaucoup de gravité, parce que cela m'ouvrait immédiatement la perspective d'une vie qui doit continuer à être un combat. La mienne l'avait été jusque-là, mais cette fois-ci, un combat pour la vie, justement. Étant donné que ces difficultés neurologiques le mettent en danger, parfois l'ont conduit dans des comas, et la présence de la mort est devenue une épée de Damoclès, sinon permanente, assez fréquente. Actuellement, les choses sont stabilisées, la médecine avance, mais je n'oublie jamais cette probabilité. Donc, tous les combats antérieurs, communisme, féminisme, la pensée avec les débats entre intellectuels, etc., m'ont paru importants à continuer. Mais là, on était dans la possibilité de survivre. Et l'immensité de cette tâche, dans un premier temps, m'a stupéfaite. Je me demandais si c'était possible d'y aller. Et comme vous disiez, j'ai toujours ce côté pessimiste énergique. Le ministre de la Santé que j'ai rencontré dans le chantier des personnes handicapées m'a dit un jour, « Madame, avec le handicap, il n'y a rien à faire ». Et je le regardais, je dis oui, cher monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Ça vous caractérise.
Ça me caractérise. Et donc, mais vous savez, il y a aussi le fait que ces personnes, je l'ai vu avec David, qui ont des difficultés à vivre, quand elles ne succombent pas à cela et se marginalisent complètement, ont une vitalité qui met au défi la vie, qui nous embrase, nous les autres. Parfois, les gens me disent, mais tu donnes beaucoup ton énergie à David, c'est pour ça qu'il est très actif. Moi, je dis, mais non, c'est le contraire, c'est lui qui me donne beaucoup d'énergie. Et je réponds à ça.
Je me suis dit quand même, vous étiez, allez, on va le dire, un peu un couple mythique à Saint-Germain-des-Prés, vous et Philippe Solers, votre mari. Tout vous réussissait. Vous étiez connu, vous donniez des cours aux États-Unis, vous étiez des gens célèbres, connus, heureux. Et puis, l'arrivée, l'immersion d'un enfant qui normalement est un moment de grand bonheur, a été un moment de grand bonheur. Et puis, la fragilité de votre fils, je me suis demandé, mais est-ce que ça n'a finalement pas été l'irruption de votre fragilité ?
Vous savez, il me semble que... moi, je ne me suis jamais vécu, ça, ce n'est pas que ça me semble, c'est comme ça. Me semble, je le reprendrai tout à l'heure. Mais je ne me suis jamais vécu comme quelqu'un qui a un succès ou qui est un modèle ou qui s'est intégré. L'exil est une épreuve. Je le dis dans mon livre sur les étrangers, c'est une épreuve et une chance. J'essaye de miser sur la chance et je l'ai fait. Mais il y a eu des moments de solitude que j'ai vécu dans la maladie. Il y a des situations où je ressens la fermeture des Français. Je dis souvent une phrase que vous me donnez l'occasion de reprendre parce que personne ne m'a demandé de le reprendre. Je l'ai fait. Nulle part on est plus étranger qu'en France. Et nulle part on est mieux étranger qu'en France.
Alors, vous ressentez ça ?
Oui, et je le ressens constamment. Pas de manière brutale, comme le ressentirait peut-être une émigrée dans les quartiers. J'habite un endroit magnifique, au côté du Luxembourg, etc. Mais je le sens, ne serait-ce que mon accent ou tel comportement qui ne code pas, qui n'est pas codé dans l'esprit français. Les gens vous le signifient. Puis il y a eu aussi des difficultés pour accéder à différents postes, ça. Donc, mais je considérais que ces combats faisaient partie de la vie. C'est ça que l'éducation communiste vous apprend aussi. On est des enfants de la guerre continue. Tu y vas et tu donnes le mieux de toi-même. Cette espèce de d'endoctrinement est devenue une seconde nature. Et...
Oui, mais le fait d'être face à votre et enfant voilà. handicapé, ça vous a mis quoi dans une situation, je dirais,
alors,
de combat différent
ou voilà,
de...
qui a fait ressurgir cette situation de les maladies neurologiques de David a fait ressurgir mes propres combats avant que j'avais tendance à minorer parce qu'il y avait aussi des bénéfices et aussi de considérer d'une autre façon ma place dans la vie. J'aurais pu sans lui être un rat de bibliothèque, un intellectuel qui répète les autres, qui innove gentiment aussi si elle peut. Mais mes engagements aussi bien du côté des étrangers, du côté des femmes, pour les personnes handicapées, maintenant dans la radicalisation, pour la religion, c'est-à-dire le grand sujet de la vie, je crois que je les aurais pas fait si il n'y avait pas David. Parce que j'ai eu un autre positionnement dans la vie, une autre manière d'être.
Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre le mot de survivre. Sur avec le tiret, voilà. Survie. Voilà. Si vous voulez bien, Julia Kristeva, je vais lire ce passage que j'ai trouvé magnifique dans votre livre. Vous dites « Je ne fais pas partie de ces parents d'enfants en situation de handicap qui, très croyants, proclament vivre la joie et la grâce. David m'a installé dans un temps vertical, un présent continu, un maintenant, dans lequel la survie fait apparaître le reste de l'existence comme une irréalité secondaire. »
Tout à fait.
C'est fort,
oui, parce que vous êtes... Vous savez,
qu'est-ce que c'est la survie pour
ça
vous?
Ça veut dire que la vie qu'on croit naturelle, qui est autour de nous et qui coule et dans laquelle il faut s'adapter pour être président de la République ou pour être le premier en classe, etc., cette vie est constamment menacée. Et moi, je suis une enfant de lumière, comme vous le savez, je ne suis pas croyante, et je trouve qu'un des défauts de cette idéologie sécularisée, c'est d'avoir magnifié la jouissance, l'endurance, la performance, et de ne pas révéler, de ne pas avoir du tout de discours sur la mortalité.
De ne pas oser regarder la mort en face, en fait,
voilà.
Plus souvent.
Et la mort en face, pas parce qu'elle arrive à la fin de la vie, parce qu'elle accompagne la vie.
Qu'elle est là à chaque instant.
Elle est là à chaque instant. Et je me disais aussi que dans l'exil, quand j'écrivais en français, je trouvais que le sang s'écoulait en moi et que le temps passait et que le français était une langue qui montrait que j'étais avant différente. Maintenant, je suis française, mais après, je serai peut-être rien. Et j'étais sensible à l'écoulement du temps, ne serait-ce que dans l'exil. Mais avec la difficulté de David, cette non-permanence de la vie, le fait qu'elle est fragile et menacée, est apparue de manière plus brusquement. Et je pense que c'est ça que j'essaie de transmettre dans mon engagement avec les personnes handicapées, parce qu'ils souffrent du fait qu'on ne les prend pas en considération suffisamment et à la hauteur de leur souffrance.
Et là encore, on ne tient pas compte de leur individualité.
On ne tient pas compte de deux choses, du fait qu'il n'y a pas de handicap en soi, mais qu'il y a des personnes, mais aussi, si vous permettez, je vais m'appesantir là-dessus, parce que c'est très important, deux autres éléments, la permanence de la mortalité et la créativité. La permanence de la mortalité, parce que le handicap est une exclusion, ils disent les sourds, les muets, avec David, j'ai dû rencontrer plusieurs autres types de fragilité, ils disent, mais on est, il y a une exclusion. Comme sur les homosexuels, comme sur les étrangers. C'est pas la même exclusion. L'exclusion qui frappe la personne handicapée est la présence de la mort. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. La douleur du handicapé, c'est la mort. Si vous lui donnez pas la prothèse nécessaire et l'accompagnement, il peut pas vivre, donc il va mourir. Et donc, c'est cette permanence de la mort qui les renvoie à ceux qui ne sont pas handicapés, qui ne veulent pas voir.
C'est pour ça qu'on ne veut pas les voir. On veut les cacher.
On veut cacher la mortalité en vous.
Parce qu'ils nous renvoient à notre propre mortalité.
On dit gentiment fragilité, restons avec la fragilité. Mais développons un discours qui manque aux lumières, qui est la permanence de la mortalité.
Alors, il manque aux lumières, mais certains en parlent. Je pense à Jean Vanier.
Ah ben Jean
le
Vanier,
fondateur de l'Arche.
Voilà, mais c'est un catholique. Donc
oui, mais alors justement, vous l'avez rencontré. Voilà. Vous avez eu une correspondance pendant 2 ans avec lui. Vous avez publié un livre ensemble, Le regard perce nos ombres, voilà. chez Bayard. Qu'est-ce qui vous a fait découvrir cet homme?
Qu'est-ce qui vous a fait découvrir lui, puis qu'est-ce que lui m'a fait découvrir?
Qu'est-ce qu'il vous a fait découvrir?
Écoutez, moi, ce qui m'a fait découvrir, c'est le don à soi. La capacité de se donner complètement à une cause.
Le don à soi ou le don de soi?
Le don de soi à un autre
aux
soi.
Autres.
Le don de soi à soi. Le don de soi à soi. Ouais. Parce qu'il se donne lui et il considère l'autre comme une personne, qu'un soi singulier. Il n'insiste pas sur cette mortalité dont je parle, parce que peut-être que dans ses rituels catholiques, il infuse, il diffuse cette présence de la mort avec...
La mort du Christ.
La mort du Christ.
Il la connaît bien, cette mort.
Et donc, quand il entraîne ces jeunes ou moins jeunes à l'église, à travers ces rituels, peut-être ce message passe. Moi, je dis que les Lumières doivent élaborer ce discours. Et aussi, ce que j'appelle, moi, la créativité, et là, on discute avec Jean, dans votre conception du handicap, le texte de Matthieu, les handicapés sont rangés dans une catégorie de ceux qui manquent, les étrangers, les malades, les pauvres, etc., et les handicapés. Donc, il leur manque des yeux, de la motricité, de l'esprit, comme le pauvre n'a pas d'argent et l'étranger n'a pas de pays, etc. Et moi, je dis, il ne faut pas enfermer les personnes handicapées dans la notion du manque et du déficit. Il faut dire que ce sont des personnes singulières et qui ont une créativité singulière.
Et qui nous apporte quelque chose
par cette singularité. Et là, ça rejoint un autre courant de la pensée chrétienne, dont on ne parle pas beaucoup, et que j'ai découvert dans Dan Scott, qui nous dit en substance que la vérité, parce que le christianisme veut porter une vérité, on va y arriver avec ma rencontre avec Benoît XVI, mais restons pour l'instant sur Dan Scott, la vérité, ce ne sont pas les idées générales, féminisme, liberté, maoïsme, taoïsme, ça. Ce n'est pas non plus la biologie, comme nous le dit maintenant le transhumanisme et tout ce qu'on fait pour aider la personne, pourquoi pas, avec des outils divers et éventuellement la robotisation. La vérité, c'est cette personne-là, c'est le pronom démonstratif. Ecce homo, cet homme-ci, cet homme-là, donc ça veut dire la singularité. Et la singularité qui est capable de créer des choses. Et donc, je cherche avec David ses créativités et avec les autres qui sont autour de lui. Mais ça, c'est un changement de notre positionnement dans la vie.
Visage, l'expression de l'être.
Gilles Christeva, depuis que je vous écoute, là, depuis tout à l'heure, surtout depuis qu'on parle
de Jean Vanier.
Du handicap et de Jean Vanier, je comprends mieux Catherine Clément.
Ah oui.
Votre amie Catherine Clément, bon. Qui dit de vous que vous êtes une athée chrétienne. Comment vous recevez cette expression-là, de la part de votre amie, qui, elle, connaît plus l'Inde et l'hindouisme que le christianisme?
Et qui est plus dans le judaïsme, parce qu'elle a découvert sa judaïté. Nous avons fait un livre qui s'appelle Le féminin et le sacré, et elle s'insurge beaucoup contre l'apologie que je fais de la Vierge Marie. Moi, je trouve formidable la Vierge Marie, parce que c'est la singularité féminine, il n'y a pas d'autre, il n'y a qu'une, donc ça invite chaque femme à être une, et puis elle a donné corps au Christ. En plus, ce que je lui reproche, c'est qu'on la voit surtout dans les larmes et autour de la mort, mais c'est quelque chose que je veux valoriser, mais elle est aussi extrêmement jubilante, et on ne le voit pas tellement dans l'art byzantin, mais dans l'art baroque, et notamment cette jubilation, je l'ai trouvée dans Thérèse d'Avila, d'où...
Vous avez écrit un livre aussi sur Thérèse d'Avila. Voilà. Mais excusez-moi, laissons Thérèse d'Avila et la Vierge Marie, moi c'est vous qui m'intéressez.
Je suis dans le christianisme, non. Mais j'insiste là-dessus pour vous dire quel chrétien je suis. Oui. Je m'intéresse à Marie et je m'intéresse à Thérèse. C'est-à-dire à ces corps féminins qui éprouvent la souffrance à fond, qui cohabitent avec la mortalité, mais qui sont capables d'une grande jubilation, parce qu'ils peuvent transcender cela dans le lien autrui et dans le lien au langage, chez Thérèse en particulier. Chez Marie, on n'a pas tellement l'impression qu'elle a dit, mais elle a soutenu le Christ, c'est déjà beaucoup. Mais dans toute la tradition catholique, même dans le monachisme féminin qui cloître, qui empêche les femmes d'avoir une vie sexuelle, il y a cette invitation à dire qui est extrêmement importante. Et je pense, pour répondre à votre question, qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'humanisme moderne s'il n'y avait pas eu le gréco-judéo-christianisme. La rupture avec la tradition ne peut se faire avec le christianisme dans son apogée, à condition que ce soit pas une rupture brutale, mais ce que j'appelle une transvaluation permanente de la tradition.
C'est-à-dire
connaître la tradition et l'interroger, lui poser des questions, voir comment elle évolue aujourd'hui, qu'est-ce qui est une impasse en elle, parce que je suppose qu'il y en a une, quelles sont les graines pour développer dans l'avenir. Donc, faire entrer cette tradition chrétienne dans une Europe moderne où il y a des non-croyants et ensemble résister au mal radical qui est porté par l'islam politique.
Mais Julia Kristeva, vous pensez que les traditions religieuses sont de l'ordre du passé et qu'il faut les dépasser pour arriver vers un humanisme qui transcenderait toutes les religions ?
Je pense que les traditions chrétiennes font partie de ce maintenant dont on parlait, qui fait que le temps n'est pas seulement celui qui s'écoule, n'est pas le temps de l'histoire avec les techniques qui avancent et qui progressent, mais qui est le temps de la subjectivité humaine, de ses souffrances, de ses paysages, de ses complexités, et que ce maintenant nous rattrape à chaque fois quand il y a une crise humaine, singulière et politique, et on le voit, l'explosion de ce qu'on appelle « spiritual revival » dans des moments de crise. Donc il ne faut pas ignorer cela, oui, il ne faut pas prendre que ce sont des atavismes.
C'est une bouée de secours, c'est qu'en moment de crise, on va avoir besoin de croire.
Ce sont des consolations et ce sont des bénéfices qu'ils donnent à toutes les souffrances et à tous les espoirs. Nous n'avons pas trouvé les solutions, nous les humanistes, à cette demande de croyance et d'espoir.
Mais sincèrement, Julia Kristeva, vous pensez que les croyants s'accrochent à une religion parce qu'ils ont besoin de croire ou parce qu'il y a quelque chose de fondamental en l'homme qui serait une dimension religieuse qui l'habite profondément? Je pense à Homo religiosus de Mircea Eliade, par exemple.
J'ai dit dans mes derniers ouvrages qu'il y a un besoin de croire universel et qui se retrouve dans les différentes religions déclinées différemment. Et je pense que la déclinaison chrétienne est une des plus abouties, tout particulièrement avec tous ces retours et réinterprétations de l'héritage biblique qui se font actuellement. Mais je pense également que les sciences humaines issues de la rupture et des Lumières ont apporté des enrichissements de cette connaissance de l'humain et qu'il faut marcher ensemble. Je vois par exemple sur mon divan des gens qui sont croyants, qui vont à l'église, je ne leur tiens pas de discours là-dessus, mais qui ont besoin aussi, pour affronter leurs difficultés, de ce que Freud et mon interprétation de l'inconscient de la sexualité leur apportent. Ça cohabite.
Est-ce que c'est ce que vous avez voulu transmettre lorsque vous avez été invité par Benoît XVI à Assise à l'occasion du 25e anniversaire de la rencontre interreligieuse d'Assise? Moi, je suis allé voir sur Internet ce moment que j'ai trouvé incroyable, où vous étiez la seule femme. Il y avait 10 personnalité invitée dans la basilique d'Assise à donner un discours devant un aéropage de bouddhistes, d'hindous, de taoïstes, de musulmans. C'était incroyable. Et là, vous étiez la seule femme à parler au nom des humanistes.
Oui.
Vous n'apparteniez pas à une religion. C'était la première fois que le pape invitait des humanistes. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, ce jour-là où vous avez parlé au nom des humanistes devant tous ces croyants du monde entier ?
Une grande émotion et une responsabilité exorbitante. J'ai peur que ça ne suive pas cette rencontre avec les non-croyants, même si le parvis des gentils qui a été organisé après existe, paraît-il, et ça n'a pas été accueilli, à mon sens, suffisamment chaleureusement en France. Et ça a du mal à démarrer, mais bon, on a tout le temps. Moi, j'étais d'abord très surprise quand j'ai eu cette invitation. Ce qui m'a fascinée d'abord, c'est que ça se passait à Assise, avec les fresques de Giotto que nous avons visitées avec ma sœur à notre arrivée en France. Et c'était une occasion de les revoir. Et comme vous dites, je n'ai jamais vu autant de religieux de toutes les couleurs, barbe et chapeau, écharpe et foulard, et la seule femme en plus. Et c'était encore plus exorbitant quand on a quitté la cathédrale d'en bas pour aller dans la cathédrale en haut. On a fait un petit bout de chemin à pied. Il y avait tous les jeunes scouts et autres qui venaient de France. Et je pense, des gens de chez Jean Vanier qui me disait « Julia, avec nous !» C'était extraordinaire. Bon, j'ai dit, de qui parle-t-on ? Je ne me reconnais jamais dans ces états comme ça, un peu hyperbolique. Non, ce que j'ai retenu surtout, c'est la rencontre rapide mais puissante avec Benoît XVI. Cet homme qui était déjà un peu fatigué, mais avec un esprit tout à fait brillant, d'abord nous a remercié d'être les premiers non-croyants dans le cadre de ces rencontres interreligieuses assises, qui étaient initiées par Jean-Paul II et que lui, il n'a reprise que très tardivement. Et après nous avoir félicités, il dit que nous devons être dans une grande souffrance parce que nous n'avons pas rencontré le vrai Dieu. Mes camarades commençaient à me faire des signes pour se dissocier, pour nous dissocier de ses propos. Mais tout de suite, cet homme qui était aussi un philosophe s'est souvenu sans doute de Hegel, de Heidegger, de Kant et Husserl et tout ce qui s'est fait depuis. Et il a dit, mais pour ces gens, donc pour nous les non-croyants, la vérité est une interrogation, un combat perpétuel et un chemin. Et personne n'est propriétaire de la vérité.
Et là, vous vous êtes reconnue dans ces propos.
Et là, je me suis reconnue. Non seulement je me suis reconnue, mais au retour, je n'ai parlé à Richard Pasquier, à des amis musulmans plus modérés que ceux que nous connaissons par les médias, des humanistes femmes et hommes. Et nous avons créé un cercle qui s'appelle Montesquieu, qui se réunit périodiquement au Bernardin. Et on essaye de toucher aux grands problèmes de l'actualité ensemble.
Mais Julia Kristeva, la grande question fondamentalement, et on l'a vu au cours de cet entretien, c'est la question de la mort. La question de notre finitude, c'est la grande question. Alors comment est-ce que vous l'abordez, vous, athée, aujourd'hui ?
Moi, je n'ai pas de réponse systématique. J'ai dit tout à l'heure que je fais des critiques à l'idéologie des Lumières, mais je pointe ces critiques et je ne me considère pas comme une idéologue. Je déteste les idéologues qui remplissent les écrans et les micros et qui ont des leçons et des réponses. Je pense que au moment de délitement et des valeurs et des religions et du lien social lui-même que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise de civilisation sans précédent en raison des progrès des techniques et des communications. Il faudrait que chacun sente sa responsabilité personnelle. Et je peux vous répondre de la mienne. Je pense qu'il faut que j'accompagne au mieux David et ceux qui, de manière très différente, parce qu'ils sont tous différents, survivent et nous rendre compte de la dimension de fragilité que chaque personne représente et habite. Je rentre d'une rencontre à Stockholm où se réunissait le Kristeva Circle. C'est une institution qui m'impressionne beaucoup. C'est des gens dans le monde entier qui parlent de mon travail. Et j'ai vu qu'une des personnes norvégiennes qui était présente reprenait cette notion de survie, de singularité, pour réformer le système de l'éducation dans son ensemble. Parce qu'il n'y a pas que les personnes handicapées qui demandent cet accompagnement personnalisé avec la notion de la fragilité et de la mort, mais aussi ceux qui ont des difficultés à lire, celui que la famille n'encourage pas assez, problèmes sociaux différents. Donc on élargit de plus en plus le cadre des particuliers et des singuliers. Et je suis très sensibilisée au fait que ça se répand comme ça à travers mon travail. Et puis aussi de continuer, peut-être si je peux, à travers le roman, ou à travers des textes, des essais, continuer à creuser cette dimension.
Mais là, vous me parlez de la vie, vous me parlez du faire. Vous ne me parlez pas de cette certitude qui est qu'à un moment, nous allons mourir.
Mais
comment
justement,
vous
mais
non, mettez face à cette perspective-là ?
Justement, en vous disant, je la pense et je vais l'accompagner de mon vivant, d'une certaine façon, à travers David et dans mes écrits. En y pensant et modulant. Par exemple, je vais faire peut-être un livre sur Dostoïevski. Je suis invitée à faire ça. J'en parlerai à partir de ces traces de la mortalité que je rencontrerai dans ce travail. J'attends pas le souffle final pour y penser. Je pense que c'est ça que j'essaye de dire aussi. Pensons-y de notre vivant et essayons d'infiltrer cela de notre vivant. C'est une forme de passion aussi que ça nous transmet et une forme de bonheur aussi parce qu'on fait face.
C'est comme ça qu'il faut vraiment entendre le mot de survie, hein. Une
Exactement.
Vie encore plus riche,
plus riche, dense. Plus complexe, plus fragile, et trouver les mots pour ça.
En tous les cas, j'ai trouvé très beau quand Samuel Doc, qui a réalisé cet entretien avec vous, vous pose la question autour de la mort. Vous lui dites « à mon enterrement, inutile d'égrener prix et distinction, vous en avez reçu beaucoup,
oui.
Il suffira d'écouter le Requiem de Mozart et de dire que je me suis voyagé en essayant d'accompagner les exclus, les fragiles et les mal-aimés. J'ai essayé, c'est tout. » J'ai trouvé très beau, cette conclusion. Et je pense que nous allons terminer cet entretien sur cette belle phrase. Merci beaucoup, Julia Kristeva, de nous avoir accueillis. Je renvoie à ce livre que vous venez de publier, ce livre de mémoire, « Je me voyage », publié avec Samuel Doc aux éditions Fayard. Puis merci pour votre accueil et cette survie que vous nous proposez.
Merci à vous.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais. Assistante de production Anne Guigard, réalisation technique Philippe Faure.